Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismaël Ouslimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans 10 000 pas saison 3, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game, le plus insolent du game, le plus percutant du game, et aujourd'hui, le plus héroïque du game. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, et on se retrouve en ce dimanche 2 février 2025 pour un épisode spécial. Un épisode spécial que je voulais vous faire sur Hercule de Disney. Et oui, un épisode sur un dessin animé, mais qu'est-ce qui se passe, Raptor ? Vous n'êtes pas des enfants, vous avez déjà vu probablement qu'est-ce qu'on a comme leçon à tirer de philosophie. Et ben justement, ça va être la question de cet épisode, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi Hercule est mon dessin animé Disney favori. Je ne les ai pas tous vus, c'est vrai, j'ai pas vu Roxy Rookie, je sais pas quoi, mais j'ai vu les principaux, et je vais vous expliquer pourquoi. Selon moi, c'est celui qui porte en lui le plus de messages intéressants et fondamentaux. Et c'est vrai que moi, je le regardais quand j'étais petit, et j'ai toujours ressenti des choses que j'ai pas réussi à expliquer avant d'y repenser récemment en tant qu'adulte. Et du coup, je voulais vous en reparler. Pourquoi je vous en reparler ? Ça fait un moment, mais c'est parfait. Le timing est très bon parce que il y a deux jours, on a revu Le Roi Lion. Tous ensemble, j'avais pas vu Le Roi Lion depuis. Alors, je trouve que Le Roi Lion est surcoté. Le Roi Lion est un très bon Disney, c'est même un Disney référence, hein. Il est bien plus référence que Hercule ou même que Aladdin. Il est référence, mais je le trouve surcoté. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant que je l'ai revu et pourquoi je trouve que il est même un petit peu rapide. Mais on va y revenir. Alors déjà, c'était une idée de Betty, parce qu'on l'a regardé avec Mars. Donc Mars, il est jamais sur les écrans, il est jamais sur la tablette, on n'a pas de tablette d'ailleurs, on n'a même pas de télé. Mais c'est vrai qu'on a commencé à, de temps en temps, regarder un dessin animé pour qu'il sache ce que c'est. Donc on avait regardé Hercule, on a commencé par Hercule. On a regardé Là-haut, que je n'avais jamais vu, qui est un très bon... je sais pas si c'est un Disney, je crois. Oui, c'est un Disney. Un Disney, Pixar, je crois qu'il y a Pixar également, qui est excellent, qui est très bien, franchement. Alors, il y a une vraie fracture, de toute façon, qui est comme ça, hein, entre les anciens Disney et les plus récents, mais Là-haut est un joli Disney. En gros, dans les plus récents, il y a pas de chansons, il n'y a pas toujours des enjeux, enfin, bref, on en rediscutera, parce qu'on a vu donc Là-haut, on a vu La Belle et la Bête, que je n'avais jamais vu. Donc j'ai découvert La Belle et la Bête à 31 ans, qui est intéressant. Je vais pas vous en parler aujourd'hui, mais du coup on avait fait une pause et là on a vu Le Roi Lion et on a vu Cars. Donc je vais tout de suite vous parler de Cars rapidement, qui est un dessin animé de Gogol, honnêtement, je vais pas vous spoiler, mais qui est assez qui est raté. Dont les enjeux sont mal sont bien décrits mais sont très mal résolus, et on attend pendant tout le film que le personnage principal ait la leçon de sa vie et que ça le fasse réaliser. Souvent c'est ça, hein. C'est après une grande leçon prise par la vie, on réalise que on s'est mal comporté, que ceci cela, c'est toujours ça normalement, et là ça n'arrive pas, c'est long, la fin n'est pas il y a tout un enjeu sur une route abandonnée où ils trouvent des amis, et la fin ne rend pas justice à cette route abandonnée, donc c'est pas fou. Et justement, j'ai trouvé, en fait, la enchaînée du Roi Lion à ça, je trouve que c'est un saut dans le vide. Après, bon, voilà, c'est comme ça. Cars, je pense que c'est un dessin animé qui a été fait uniquement pour le merchandising, je pense. Donc, je vais vous parler rapidement du Roi Lion, et après on va parler de Hercule. Pourquoi est-ce que je trouve que Hercule, c'est vraiment le dessin animé phénoménal de notre enfance, et tout ce que ça nous apprenait, et tout ce qu'on peut comprendre même par la suite. Donc d'abord, le Roi Lion, je trouve qu'il est surcoté, parce que après l'avoir revu, les choses s'enchaînent très rapidement. On a finalement tout est entre deux chansons. Les chansons font avancer l'histoire, comme de coutume hein, dans Disney. Mais d'habitude, les chansons sont plus là pour donner une situation, décrire une situation. Là, les chansons sont là pour nous faire la transition entre Simba enfant, Simba adulte. Les choses vont très vite. Son retour pour reprendre la couronne, entre guillemets, se passe très vite. Il n'a pas vraiment de grande logique. Il tombe dans la falaise. L'autre, il lui dit, bon, bah, je t'avoue que c'est moi qui ai tué ton père. Et il se relève de la falaise. Ça lui donne les... C'est bizarre. C'est bizarre, bon, c'est très schématique, et donc c'est un petit peu raté quand je ne trouve pas de choses ratées dans Hercule. On y reviendra après. Et donc, Le Roi Lion, je le trouve intéressant parce qu'il aborde plein de concepts, en tout cas c'est comme ça que je le comprends. Il y a le concept de la responsabilité, évidemment, il y a le concept de la transmission, qui est le cycle de la vie, il y a le concept de la culpabilité, et je vais peut-être commencer par celui-ci. On a en fait Simba qui s'isole, part en exil volontaire, parce que Scar, donc son oncle, lui fait croire que, enfin en tout cas, insiste et appuie, et lui met le fardeau sur les épaules, que c'est de sa faute si son père est mort, parce qu'il était parti jouer je sais pas où, et que donc il n'a pas fait attention encore une fois, et que son père, pour le sauver, a encouru des risques mortels, bon bah il est mort. Et évidemment, c'est pas exactement comme ça que l'histoire s'est passée, mais c'est le fil rouge de toute la pièce, j'allais dire, de toute l'histoire. On a Simba qui est écrasé par le poids de la culpabilité, et il préfère même l'oublier en copant, en fait, avec le Hakuna Matata, etc. Je reparle juste après. Et quand il revient sur ces terres dévastées, là, les terres des lions, et ben en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que il revendique et il dit, bon bah oui, j'assume mes responsabilités, Mufasa est mort par ma faute. Et personne ne comprend, etc. D'ailleurs, c'est pas très bien résolu, cette histoire, parce que évidemment, c'est pas vraiment l'histoire, personne ne lui fait remarquer, et il faut vraiment que Scar lui dise, bon bah c'est moi qui l'ai tué, enfin, c'est bizarre, c'est un peu bâclé, bon voilà. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, ça signifie qu'on peut faire basculer l'avenir d'un état, je trouve qu'il y a des similitudes, en appuyant sur sa culpabilité naturelle. Parce que on a d'un côté Scar qui est le plus gros des enculés, comploteur, il fait affaire avec les hyènes, c'est-à-dire avec les charognards, quoi, avec ceux qui se nourrissent des gens qui ne peuvent plus se défendre. Faut bien comprendre que les hyènes, alors je crois que c'est une réputation, je crois que c'est la majeure partie de leur alimentation provient de la chasse de nuit, mais les hyènes, c'est décrit comme des individus un peu faussement courageux qui sont en bande, en groupe, et qui vont s'attaquer à des proies faciles, vont s'attaquer même à des bah c'est des charognards en partie, donc c'est-à-dire qu'ils prennent, ils privilégient des proies qui ne peuvent plus se défendre, des proies qui sont déjà mortes pour aller se repaître. Alors il en faut hein, dans la nature, il faut faire le ménage en fait, faut des déchetteries, c'est à ça que servent les charognards un peu, mais faut bien comprendre que le lion qui est le roi de la savane, qui est le roi des animaux hein, dans l'imaginaire, qui est noble, qui est bah, décrit même comme le roi hein, dans le Roi Lion, il ne peut pas faire affaire à des gens qui sont aussi lâches, aussi dans le dos, et qui, enfin, c'est deux choses opposées. D'ailleurs Scar c'est marrant parce que j'ai jamais compris pourquoi il était noir. Pourquoi Scar est noir? Putain. Mufasa, il est putain de jaune, tu sais, de blanc-jaune avec une crinière rouge, et Scar, il est foncé avec une coupe de cheveux noirs, putain. Ils sont censés être frères. Ah, ça me fume. Et donc, alors que Simba, il est bien blanc. Ah putain, donc en fait on a une alliance entre Scar et les hyènes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je vous parlais de ça? Oui, bah parce que d'un côté en fait on a les grands méchants qui font des coups de pute et qui n'éprouvent aucun remords, aucune culpabilité, aucun regret. Et de l'autre côté on a les gentils, et Simba et l'innocence même parce qu'il est en plus jeune, il est un bébé, enfant, qui, du coup, lui, est capable d'avoir de l'empathie, parce que justement, c'est ça qui fait que le royaume des lions est un beau royaume quand il y a Mufasa, c'est parce qu'ils sont capables d'avoir du cœur, ce sont des bons dirigeants, ce sont des bons monarques, ce sont des bons rois, et ils sont parce qu'ils ont cette capacité de ressentir les émotions, d'être bon, de comprendre en fait, quand on a de l'empathie, on comprend quand on fait du mal aux autres qu'on n'a pas envie de le faire, on n'a pas envie, ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse, etc. Et justement, le royaume nous montre que les sentiments de culpabilité, c'est pas qu'ils sont proprement qui devraient pas exister, c'est qu'en fait ils sont capables d'être ressentis toujours par ceux qui vont se faire avoir dans l'histoire, trop bon, trop con, c'est ça en fait tout le sujet du roi lion, et que les gens les plus négatifs vont jouer sur ces sentiments là sur les populations, sur les personnes qui sont capables de les ressentir contre eux, pour jouer contre leurs intérêts. Donc je trouvais déjà que ce premier parallèle était assez intéressant. Ensuite, donc, on a l'exil de Simba. Bon, ils essayent de le tuer, mais ça fonctionne pas. Il s'exile dans le désert et il est recueilli par Timon et Pumba, c'est-à-dire un suricate et un facochère, ok. Et là, ils essayent de... En fait, Simba, il est triste, il est terriblement affecté par la mort de son père. En plus, il s'en sent responsable, parce qu'il a pas vu que c'est Scar qui l'a rejeté de la falaise. Et donc, il est au plus mal, en fait. Il est en dépression. Et la solution que lui proposent Timon et Pumba, qui sont en fait les deux hippies de l'histoire, parce qu'en fait ils vivent en dehors du royaume des lions, en dehors de là où il y a une activité économique, quoi. Et ils vont se nourrir d'insectes, de choses, ils prennent ce qui reste, ils prennent ce qui traîne. Alors ils vivent dans des super cascades, blablabla, mais la réalité c'est que ils sont SDF en fait, ils n'ont pas de domicile fixe, ils vivent une vie d'ailleurs dans la peur d'être retrouvés, d'être chassés, et même quand il y a le retour de Nala, la lionne d'enfance, l'ami d'enfance de Simba, ils sont effrayés parce que leur quotidien en fait n'est pas cadré, ils sont hors de la société, donc ils ont ces avantages en termes de liberté d'emploi du temps, mais ils ont ces inconvénients en termes de la vie sauvage complète où à tout moment tu peux te faire retrouver et là t'as pas de troupeau pour t'aider, t'es solo quoi. Et donc il lui propose la devise Hakuna Matata qui est oublie tous tes problèmes, laisse tomber, on s'en fout, next, de toute façon, amuse-toi, profite, kiffe ta vie, et laisse le reste, tout le reste est prise de tête, te prends pas la tête, vas-y, Hakuna Matata, regarde, tu vas là, tu dors, tu te prends pas la tête, y a pas de responsabilité, voilà, c'est ça le credo, le concept de Timon et Pumba, c'est de lui expliquer que, bon, là, t'auras pas de responsabilité, tu vas pas te prendre la tête, y a pas des histoires de royaume, y a pas des histoires de mon père s'est fait tuer, je sais pas quoi, nanana, nanana, c'est ma faute, tout le monde, personne te connaît, par contre, c'est ce que Simba demande, mais est-ce qu'il y a de l'antilope à manger? Ils lui disent, bah non, l'antilope, c'est quand même réservé là où on a un pouvoir d'achat. Et pour avoir un pouvoir d'achat, faut avoir un métier. Et toi, t'as pas de métier, fils de pute. Donc, par contre, y a des limaces. Voilà, donc en fait, ils se nourrissent des trucs les plus dégueulasses, les plus nuls, et en fait, qui sont même pas chassés par les animaux qui en valent le coup. Y a aucun lion qui se dit, putain, je vais partir à la chasse aux moustiques. Ça existe pas. Les lions, ils mettent des petits coups de queue de temps en temps, ils calculent à peine ce genre d'insectes. Alors que eux, eh ben, ils vont être contraints, et ils en font tout un festin, etc. Mais la réalité, c'est que c'est pas appétissant, un peu gluant, mais appétissant. Ça l'est pas, c'est un peu nul, et c'est tout ce à quoi ils peuvent prétendre, et bon. Dans leur conception, vu qu'ils coopent à fond, ils en font des grands repas culinaires. Alors que c'est manger des scarabées croustillants alors que t'es un lion. Donc en fait, Simba va vivre une vie de hippie sous le rejet des responsabilités. Et c'est intéressant parce que ce rejet des responsabilités, il lui permet positivement d'étouffer sa peine, de l'estomper, même si elle revient de temps en temps quand il parle des étoiles, en fait il se souvient que son daron il lui avait dit que c'était des grands monarques, en fait c'est horrible, cette scène elle est horrible, vous savez, il regarde les étoiles, il y en a un qui dit je me demande ce que c'est, ah je pense que c'est des libellules, Pumba il lui répond ah j'ai toujours pensé que c'était des boules de gaz qui brûlaient des milliards d'années de nous, d'années-lumière de nous, et lui dit, et là on lui dit Simba t'en penses quoi, et là il dit un jour, quelqu'un m'a dit que c'était des monarques. En fait, il a un rappel de la grandeur de sa lignée, de son héritage, des responsabilités absolues. Les monarques, c'est-à-dire non seulement les monarques ont surveillé le royaume, mais quand le roi meurt, il vient pour te surveiller. Il vient pour te surveiller pour voir si tu fais pas le fils de pute. Vous imaginez? Donc, il y a tout de suite le poids non plus de la culpabilité, mais le poids de la fuite de ses responsabilités qui vient toquer à la porte parce qu'il a passé en fait toute son enfance et son adolescence à se branler en fait. C'est ça hein, que le Roi Lion nous dit, c'est Simba est allé faire le hippie. Et c'est confirmé parce que quand Nala revient pour chasser et qu'elle le croise, elle le domine à la bagarre. Bon, même si les lions sont apparemment les chasseuses de la bande, elle le domine à la bagarre. Parce qu'en fait, il n'a pas mangé de protéines, ce fils de pute. Donc, il se fait bolosser par une lionne dont le régime, pourtant sous Scar, ils avaient plus à manger, mais dont le régime avait suffisamment de viande pour avoir encore la patate, quoi. Et là, il se passe. Donc, il s'éprend avec Nala. Il se retrouve. Il est heureux. En fait, il revit comme un lion. C'est ça qui est marrant dans ces retrouvailles-là. C'est que on a le lion qui était sorti de la. Mais en fait, c'est ça. On peut sortir le lion de la savane, mais on sort jamais la savane du lion. Et ça, c'est ressenti immédiatement par Timon et Pumba. D'où la chanson. L'amour brille sous les étoiles là. Et en fait, ils disent s'ils partent, ils se rendent immédiatement compte que en fait, leur grande famille recomposée, il y a des indépassables qui sont l'appartenance à une même espèce. Et quelle espèce que les lions rois de la savane. Et donc quand Nala arrive, il y a tout de suite cette relation, ce rapport qu'ils n'auront malheureusement jamais avec Simba et qu'il a immédiatement en plus avec une femelle. Et ils comprennent tout de suite que bah, le choix va être évident pour Simba de retrouver ses semblables. Et Nala, en fait, arrive, au début, c'est gratos, c'est naïf, c'est innocent, le retrouvaille, et puis ensuite, Nala lui dit, bon, maintenant que je t'ai sous la patte, écoute, c'est le bordel, là, fils de pute, t'es quand même le fils du roi, t'es parti, tu nous as laissé avec Scar a détruit le royaume, il s'est allié avec les hyènes, il n'y a plus à manger, c'est la tristesse, on se fait mal parler. C'est tant mieux que je t'ai retrouvé parce qu'il y a du boulot. Bon, Simba étant devenu un énorme hippie, quand il entend qu'il y a du travail à faire, il n'est pas trop, il est pas trop convaincu. Il se dit quand même, bon, ton projet c'est de me faire traverser le désert pour aller bosser et en plus tout reconstruire. C'est fatigant. Et il refuse. Il dit, bon, ta gueule, j'ai jamais voulu être roi, c'est pas mon dos, Hakuna Matata. Il lui lâche Hakuna Matata, ça vous l'avez peut-être oublié. Il y a Nala qui lui parle de trucs sérieux et lui dit, non, 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 Hakuna Matata. Et lui dit, quoi? Elle lui dit, fils de pute, parle français, non? Avec ton langage du Zimbabwe, là. Parce que Nala est raciste, j'ai oublié de le dire. Elle lui dit, il y a des gens qui payent les allocs que tu reçois, Simba, enculé. Et elle lui dit qu'est-ce que ça veut dire? Elle lui dit bah ça veut dire qu'on s'en bat les couilles et tout. Enfin c'est un énorme hippie, elle est dégoûtée. Et là elle perd de l'attraction pour lui parce qu'en fait elle le trouvait, elle était attirée par le fait qu'ils étaient amis d'enfance, par le fait qu'il est plutôt beau gosse, il a la même dégaine que son gros tchat de daron. Et là on apprend que bah non il n'y a pas que le paraître, il n'y a pas que le fait qu'il soit BG. Elle est écœurée, elle est éloignée par le fait que cet homme-là rejette des responsabilités, ne soit pas à la hauteur. Et ça, c'est un tue-l'amour, en fait. Ça, c'est important de le comprendre, qu'il y a un tue-l'amour dans le fait qu'il coque. Voilà. Elle se rend compte qu'il est gay. Voilà. Il est devenu gay à force de fumer et de manger des limaces. Et ensuite, il y a l'intervention de Rafiki, le Ouistiti, là, qui vient et qui lui montre des trucs. Il dit, et ce bâtard, il dit, viens voir, j'ai retrouvé ton père. Et donc il lui fait un faux espoir d'enculé, et il le suit, et il lui montre son reflet dans l'eau. Il dit, bah voilà, en fait, il est là, ton daron, il vient en toi. Il a le seum Simba. Et là, il se passe un truc extrêmement violent, c'est-à-dire, on se rend pas compte, hein. Il se passe un truc extrêmement violent. Et cette scène, j'ai halluciné, j'avais pas vu ça comme ça quand j'étais petit. Il y a les nuages qui se forment et qui font la tête de Mufasa. Et t'as la musique qui arrive. Ta-na-na-na. Non, 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 non. En fait, c'est une musique royale, mais de déception, tu sais. Et il arrive, et Mufasa lui fait, tu as oublié qui tu es. Et enfin, en gros, il lui explique que en oubliant qui tu es, tu m'oublies. Parce que en oubliant que tu es Simba, fils de Mufasa et héritier des rois lions, tu m'effaces, enculé. Tu ne respectes pas ma mémoire. En queuquant, en étant gay, t'es en train d'expliquer que tous mes efforts pour te mettre au monde, t'élever et être un tchad moi-même digne de mes ancêtres, c'est claqué, espèce de merde. Tu nous fous la honte. Tu es indigne. Et il lui sort ça. Attendez, je vais vous prouver ce que je dis. Il lui dit, mais il lui dit un truc ultra violent. Il lui dit, avec ton mode de vie de PD, en gros, tu es indigne. Attendez. Mufasa parle à Simba. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est là.
Simba, tu m'as oublié.
Jamais.
Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde-toi, Simba. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu.
Vous avez pas l'image, mais il y a un regard. Il y a un regard vénère. Quand il lui parle, le sourire, il est inversé. Il le regarde en mode, mais t'es devenu une merde, Simba, pauvre fils de pute. Tu es, attends, il lui dit quoi? Il lui dit, attends, je remets en arrière.
Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde-toi, Simba. Tu vaux mieux que ce que tu es devenu.
Putain, mais faut se rendre compte. Simba, dans sa tête, il est à son prime. Il vit ses meilleures années, il passe sa vie à se balancer dans la jungle, à tomber dans l'eau, à manger des cacahuètes, là, des scarabées. Pour lui, c'est trop bien, il a trouvé sa voie. Et enfin, il est heureux. Et il y a son daron qui arrive dans les nuages et qui lui dit « Tu vaux mieux que ce que tu es devenu
!» Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie.
Comment la reprendre? Je n'ai plus aucun pouvoir.
Aïe, 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 il se prend un n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas qui tu es. Dès qu'il pose une question, n'oublie pas qui tu es, fils de pute, n'oublie pas. Voilà, et ça, c'est important. Ça, c'est un message qui est important. C'est le message du film, en fait. C'est le message du film. C'est, d'accord, tu peux trouver toutes les histoires à te raconter. Tu peux te raconter que, il n'y a rien dans la vie, c'est bon, c'est pas mon dos. Allez, c'est bon, Hakuna Matata. D'accord. Une petite limace. Voilà, en fait, si tu copes, tu n'auras le droit de manger déjà toute ta vie que des limaces, que des insectes. Tu vas soulever des troncs d'arbres comme une merde alors que t'es carnivore pour aller te nourrir. Premièrement. Et en plus, tu vivras dans l'indignité absolue sous le regard de tes ancêtres qui des fois apparaissent en nuage pour te cracher dessus. Et là, il y a... en fait, c'est-à-dire que la meuf qui a essayé de le convaincre n'a pas eu le pouvoir de persuasion. La seule chose qui a réussi à convaincre Simba, c'est de repenser qu'il y avait des gens qui les surveillaient et qu'ils s'en montraient indignes, donc qu'il les insultait, il insultait leur mémoire en quequant. Et donc après, là, il retourne et il y a toutes ces musiques un peu vraiment entraînantes quand il revient. Et donc voilà, il décide de revenir. Et là, il découvre ce qu'est devenu le royaume qu'il a connu verdoyant. Il n'y a que des cadavres, il n'y a plus rien, tous les animaux se sont barrés, donc il n'y a plus... C'est le communisme, quoi. Ils ont fini par dégoûter tout le monde, il n'y a plus de ressources, les hyènes font la loi. Je prends une petite gorgée de play. Alors, il y a aussi la figure de Zazu, maintenant que j'y pense. Elle était plus présente dans mes souvenirs. Mais oui, Zazu, c'est en gros le clown, et tu as donc son, il est beaucoup mieux traité sous Mufasa. Il est apprécié pour autre chose que juste ses blagues. Il est apprécié pour sa capacité à partir à la pêche aux informations, à transmettre. C'est un peu le Hermès, quoi, le Hermès de l'Olympe. Et par contre, sous Scar, il est juste dans une prison et il est là pour faire rire. Donc c'est marrant aussi de se dire que quand il y a un mauvais dirigeant, il va vous restreindre et vous contraindre dans juste le truc qui lui va le servir lui et pas dans tout ce que vous pourriez proposer à l'humanité à travers vos nombreuses qualités. Bon, c'est juste au passage. Et donc il y a Simba qui revient. Il vient, il voit sa daronne se faire gifler par Scar, donc ça l'énerve. Il démarque, Scar, il le prend pour Mufasa, donc il flippe. Et ensuite, Ensuite, je vous dis, c'est pas très bien servi parce que c'est très mal résolu finalement, je trouve. Cette histoire de culpabilité, il dit oui, c'est moi. Alors oui, il épouse des responsabilités, mais elles sont pas vraiment de son fait. Ensuite, il faut que Scar, il avoue lui-même alors qu'il était pas obligé, blablabla. En gros, le film se termine avec Scar qui se fait balancer au milieu des hyènes, sur qui il a mal parlé. Donc en fait, on voit la différence d'alliance, ça c'est intéressant aussi. C'est que Simba a des alliances naturelles, parce que finalement il a pas trop grandi dans son territoire, mais il a des alliances naturelles avec tous les animaux qui lui prêtent allégeance, et avec toute sa tribu de lyonnes qui reconnaissent en lui le boss. Voilà, quand il revient, il n'y a pas une lyonne qui dit « Ouais, t'étais où ?» Je sais pas quoi, elles viennent, elles font « Ah putain, Dieu merci, le boss est de retour. » Alors que Scar, dans ses tentatives d'alliance, il s'est allié avec la pire des races pour arriver au pouvoir. Il s'est allié avec les hyènes qui, leur traîtrise, leur lâcheté et leur nombre, leurs intimidations en nombre, étaient bien quand elles étaient à son service, mais il a oublié que c'était en fait un comportement définitif, et que tôt ou tard, quand on s'allie avec des fils de pute, ben il y a un jour où c'est à notre tour d'être fils de puté. Et ça, on le voit beaucoup, dans beaucoup de gens sur Internet, sur YouTube notamment, qui à un moment font alliance pour essayer de détrôner le duc, pour essayer de découronner le roi. Ils font tous alliance entre eux, mais là, ce qui se passe, c'est que tôt ou tard, quand tu t'allies au pire des races, bah, elles finissent par, vous finissez par vous manger entre vous. Et c'est un petit peu ça qui se passe, parce que du coup, Scar a dit, dans une tentative de sauver sa peau, vu qu'il a aucun honneur, et donc il y a ce parallèle entre Simba qui vient et qui est capable d'assumer la mort de son père alors qu'elle n'est pas de son fait, mais qui est capable de prendre ça sur ses épaules, de dire la vérité et de dire, bah voilà, c'est ma responsabilité, de prendre sa responsabilité. Et comme on le sait, responsabilité et autorité vont de pair. Et ben on a Scar qui avait l'autorité, mais il est incapable de prendre ses responsabilités. Et donc quand il est mis face à tout ça par Simba, il lui dit non, c'est les hyènes qui étaient derrière tout ça, c'est elles qui m'ont fait faire ça, je te jure. C'est le classique, et les hyènes entendent ça, et donc les méchants finissent par se bouffer entre eux, et Scar finit par se faire dévorer par ces hyènes dont il a essayé de se servir pour avoir le pouvoir. Donc évidemment, ça c'est aussi une métaphore qui est valable quasiment à chaque fois et qui est très très réutilisée par beaucoup de films. Et enfin, on a donc Simba qui revient après la victoire, c'est le bordel, il pleut, ça éteint le feu, ça c'est une image classique aussi, il va faire des câlins aux lyonnes et Rafiki lui fait hop, parce que Simba va commencer à faire des câlins à toutes les lyonnes. C'est-à-dire que le mec vient de tuer le faux roi, il vient de reprendre les rênes, et son premier réflexe c'est d'aller voir les gonzesses. Fils de pute, va. Il se dit putain, c'est vrai que Timon et Pumba, c'était pas la folie. Donc il va voir toutes les meufs du quartier, et elle commence à lui faire des petits signes d'allégeance en disant bon, je veux bien être la prochaine pour le trône, tu vois. Je veux bien assurer la descendance. Là d'un coup, on a toutes les meufs qui sont prêtes à passer à la casserole pour tant que ça garantit le prochain statut de reine. Sauf que Yanala qui évidemment qui finit par avoir le contrat, quoi. Mais surtout dans cette scène là, il y a Rafiki qui lui fait hop hop hop, le caillou là, le caillou fils de pute, voilà, t'es revenu pour baiser les meufs ou pour le caillou, voilà. Et il lui dit va sur le grand caillou et tu dis que c'est maintenant toi le roi. Et il finit par y aller et par rugir, et je crois que, enfin parce que j'ai loupé le début là, mais je crois de souvenir qu'il essaye de rugir quand il est tout petit Simba, et c'est nul parce qu'il a pas trop l'expérience, il sait pas le faire, et du coup on l'entend plus jamais rugir, évidemment quand il est Hakuna Matata comme un énorme hippie, et donc on a cette conclusion de l'œuvre Le Roi Lion, sur le petit qui arrivait pas à rugir, qui revient et qui a enfin la légitimité de rugir comme un tchad, parce que c'est lui le boss, parce qu'il vient pour restaurer le royaume, et qu'il a prouvé sa valeur, bien sûr. Et puis ensuite, il y a le royaume qui redevient verdoyant, les animaux reviennent, quand on a viré les despotes qui foutaient la merde, et le cycle de la vie reprend, et il a un enfant, et c'est la même scène qu'au tout début. Magnifique, parfait. Bravo, le roi lion, impeccable. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir parler de Hercule. Hercule, pour moi, il est plus parlant et il est mieux conçu, il a moins de faiblesses. Même si le roi lion, c'est vraiment, c'est excellent. Parce que en plus, on est affaire à des êtres humains, plus ou moins, parce qu'on parle de dieux, de demi-dieux, etc. Hercule, comment il commence? Il commence. Alors déjà, dans Hercule, on a, et je crois que c'est le seul Disney où on a un narrateur qui en fait plusieurs narratrices sont les muses et qui vont chanter les exploits de notre héros, qui vont chanter son histoire. Donc ça c'est marrant parce que en fait on comprend que quand tu pèses de ouf, quand t'es le boss, quand t'es un héros, il y a des chansons qui sont faites, c'est plus toi qui chantes, c'est pas toi qui fais et tout le monde est bon comme Gaston, je sais pas quoi comme Gaston. Enfin même si Gaston d'ailleurs c'est un peu le village qui chante ses exploits et le fait que ce soit un boss. Mais là c'est au-delà, c'est devenu un mythe, c'est une légende de Hercule. Et donc elle chante pour l'introduction, pour comprendre ce qui se passe. Elle nous parle des titans. Et nous explique qu'en gros, au premier jour du monde, il y avait des titans. Alors, ça peut paraître un détail, mais je trouve que ça a son intérêt. Il y avait des titans qui détruisaient la Terre, qui faisaient ce qu'ils voulaient. Et il a fallu attendre un énorme Tchad, qui s'appelle Zeus, pour les exploser et les emprisonner. Et il les emprisonne pas en mode, chaque matin, il va leur donner à manger, il joue à la play, etc. Il les met dans une prison d'éclair, dans les sous-sols. C'est inaccessible, je crois que c'est même dans le Maelstrom, c'est inaccessible, ils sont punis à vie d'avoir été des fils de pute. Et ça a été fait par une seule personne, à une seule main, il a fallu qu'il y ait un boss qui vienne remettre de l'ordre là-dedans, c'est Zeus, et la conséquence du fait qu'il ait explosé tous les titans qui foutaient la merde, c'est qu'en fait c'est le dieu des dieux. Il est là, à l'Olympe, et il a le droit de, ils disent, fait cure de sinécure, c'est-à-dire que il se branle, ils passent leur vie, les dieux de l'Olympe, à rien faire. Parce qu'en fait, ils sont présents quand il faut être présent, et qu'ils ont gagné ça, et en fait, ils sont au trône du monde, maintenant que c'est eux les tchads, c'est eux les boss. Donc déjà, c'est un statut qu'on ne leur réfute pas. C'est-à-dire que si tu es arrivé et que tu as sauvé le monde, tu es officiellement, un dieu, hein, le héros. Bon, donc ça commence comme ça. Et donc on est dans l'Olympe avec les dieux grecs, et Zeus et Hera ont un fils qu'ils appellent Hercule, et c'est la baby shower là, donc là il est temps de le présenter, et on nous introduit le personnage de Hadès, et Hadès il est dieu des enfers, et il est surtout très jaloux de Zeus, et il ne rêve que de lui prendre sa place. Et sûrement parce que ça l'a rendu aigri, il en veut beaucoup à Zeus de l'avoir mis... au poste des enfers, parce que du coup, il broie du noir, quoi. Il croise que des trucs dégueulasses, des âmes, des morts, un chien à trois têtes. C'est la violence, en fait. Il est pas au moins Olympe parce que la coulée douce avec tout le monde. Et en plus, il taffe. Il est obligé d'accueillir les morts. Voilà, il y a une logistique. Si vous voulez, pendant que tous les autres, ils sont en train de vivre la belle vie avec des couleurs, lui, il voit juste du terne et la mort. Donc ça l'a rendu un petit peu, à force des années, ça l'a rendu un peu aigri. Et donc, on apprend que Hadès fomente un coup d'État où il veut libérer les titans, il attend que les planètes soient alignées parce que leur prison va être un peu plus faible, et on lui dit, et là t'as l'introduction de la prophétie, que dans 18 années, ça va être son coup d'État va être mis en péril par Hercule. Et on lui dit, face à Hercule, nulle victoire. Et là, c'est intéressant, c'est repris dans plein de films, c'est la prophétie qui se réalisera. Alors soit on a la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'en apprenant qu'il va se passer quelque chose, le personnage va essayer de l'empêcher et toutes ses actions vont en fait déclencher ce quelque chose, donc la prophétie autoréalisatrice. Ou sinon, on a la prophétie qui en fait... prend en compte le fait qu'on soit au courant qu'elle existe et qui est en fait qui est une fatalité, et enfin tout ce qu'on fera va faire que déclencher cette prophétie, c'est un peu le même concept. Donc il y a ce premier élément qui arrive et donc qui justifie que Hadès se dit, bah si Hercule c'est écrit dans la prophétie que dans 18 ans il va me casser les couilles, il vaut mieux que je m'en débarrasse de suite. Et en fait il va déclencher la suite des événements. il va demander à ses compères peine et panique, enfin ses esclaves en fait. D'ailleurs, ça aussi, c'est très intéressant de voir comment sont entourés les gagnants, comment sont entourés les gens de bien. On peut parler de Zeus, de l'Olympe, on peut parler de Hercule dans la suite avec Pégase, Philoctète et les gens fidèles qui lui sont autour. Et comment sont entourés les gens méchants en fait, vu qu'ils ont des esclaves, des serviteurs qu'ils maltraitent, et Hadès a des châtiments corporels permanents sur ces deux peines et paniques, et ben en fait ils se rendent chacun plus aigris l'un que l'autre. Donc ça ne peut pas mener, c'est le genre de management qui ne mène pas à des bons résultats. Et donc il est entouré de deux mecs, deux démons qui peuvent prendre toutes les formes qui existent, qui sont peine et panique, et qui sont pas futés, et surtout pas très loyaux. Et il envoie ces deux mecs-là aller à la tâche, c'est-à-dire kidnapper Hercule, l'emmener sur Terre, et lui faire boire une potion mortelle, qui est pour le tuer. Et donc c'est ce qu'ils arrivent à faire. Personne ne s'en rend compte à temps, Hercule est enlevé, et ils lui font boire la boisson mortelle, et au dernier moment, on a un couple qui arrive, qui se promenait par là, et qui n'avait, c'est un couple qui était stérile, qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et donc en fait, les dieux, c'est aussi un beau message, c'est que face à leur courage, et à leur le courage dans l'épreuve de savoir qu'ils n'auront pas d'avenir en fait, leur bienveillance et le fait qu'ils soient restés bons et pas aigris, contrairement aux autres qui en enfer deviennent aigris, etc., et ils n'arrivent pas à se satisfaire de leur sort, et ben face à ça, ils sont récompensés quelque part par les dieux qui leur envoient un enfant, et quel enfant. Et en fait, au moment où ils arrivent, peine et panique, et il renverse la potion, et en fait il restait une dernière goutte qu'Hercule ne boira jamais. Et ils essayent de tuer les parents là qui arrivent, enfin le couple qui arrive, et Hercule là il les attache entre eux, il les jette dans l'au-delà quoi. Et donc là le couple découvre que le bébé est un bébé particulier, parce que si vous voulez un bébé qui prend des serpents, qui les frappe et qui les jette dans les cieux, vous vous dites merde, je suis tombé sur quelque chose de je suis tombé sur quelque chose de particulier. Et donc peine et panique sont face au dilemme d'aller faire le bilan à leur patron, à Hadès, et là on a les premiers signes de manque de loyauté par peur en fait. Ils ont tellement peur de la sanction qui vont pas informer Hadès, et donc en fait Hadès joue contre lui, parce que si c'était pas un gros bâtard qui est tout le temps violent et qui ne supporte rien, et ben il lui aurait dit la vérité. Et ça, je fais un parallèle avec l'éducation des enfants et même les relations de confiance qu'on peut bâtir avec les gens dans la vie. Quand vous êtes un mec horrible et que dès qu'on vous dit la vérité, vous punissez sévèrement, les gens vont faire le lien et ne vont plus vous dire la vérité, notamment vos enfants. Parce que quand ils vous disent la vérité, ils sont explosés. Donc ils préfèrent vous mentir, et au pire, le jour où vous apprendrez la vérité, vous allez les exploser, mais ils ont une chance au moins de pas être explosés. Et donc on a tout à fait ça qui se passe avec peine et panique, et donc ils vont faire le constat, le bilan à Hadès, ils lui disent c'est bon, il est mort, on l'a tué, impeccable, il vous embêtera plus. Or, c'est faux. Et donc Hadès, s'il avait eu cette information, il aurait pu relancer, pendant qu'il était bébé Hercule, des plans pour le tuer. Mais il n'a pas cette information parce que du coup, eh ben, il est tellement... C'est tellement comment... J'allais dire un terroriste. C'est tellement une horrible personne avec qui vivre que personne n'ose lui dire la vérité. Donc il perd des informations qui auraient pu être précieuses. Donc il est victime, en fait, de son propre comportement de merde. Et puis, ensuite, Hercule donc devient mortel, il n'avait pas bu tout le breuvage, et il conserve force et courage, c'est les muses qui reprennent la chanson du gospel pur, et il est élevé par ce couple qui est très 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 heureux et qui remercie le ciel chaque jour d'avoir eu un enfant comme ça qui leur est tombé dessus et qui voit vraiment un signe divin. Et c'est super intéressant cette relation qu'il a avec ses parents adoptifs, parce qu'ils lui disent, il le sait. Et en fait, il y a ce jour-là où ils vont au village, et Hercule, en fait, est surhumain. C'est un surhomme, il a une force surhumaine et une force herculéenne, évidemment, mais il ne la maîtrise pas. Et donc, quand il arrive au village, il fout le bordel, il casse tout parce qu'il se cogne, il essaye de jouer, il essaye de forcer, il est rejeté, mais il est rejeté gentiment, et puis, en fait, il finit par être rejeté beaucoup moins gentiment parce que il insiste pour qu'on ne le rejette pas, et donc il fait encore plus de catastrophes. Et ça, c'est le message qui est passé, selon moi, c'est que bah même un individu qui a des qualités extraordinaires, s'il n'arrive pas à s'en servir correctement, s'il ne les met pas correctement au service du bien, de ce qu'il faut faire, et ben il devient en fait un boulet, et c'est... En fait c'est terrible de se dire qu'un mec qui a les pouvoirs d'Hercule, qui a cette force-là, est juste un destructeur. C'est-à-dire que la même capacité, les mêmes compétences, selon comment elles sont mises à la disposition du monde, elles peuvent être destructrices ou au contraire héroïques. Et donc il est rejeté, il est triste, il va en parler à ses parents. Et là, il y a la chanson « Ce monde qui est le mien ». En fait, il y a quelque chose qui lui dit dans sa tête qu'il appartient pas à ce monde. « Ah, dis je te jure, t'es un mec qui porte à bout de bras des maisons, des trucs, tu t'es rendu compte enfin que t'étais pas comme les autres ». Il sent qu'il est pas comme les autres, et il aimerait renouer avec ses racines. Et ça, c'est un des messages qui va suivre vraiment tout le film, parce que on a un individu qui est perdu sans ses racines. Et dès que ses parents lui apprennent, alors ils lui donnent une piste pour aller retrouver, ils disent voilà, quand t'étais bébé, on a trouvé ce médaillon et qu'on correspond au temple de Zeus, vas-y et tout. Dès qu'il apprend d'où il vient, dès qu'il renoue avec ses racines, il reprend un élan inarrêtable de motivation, il redonne du cœur. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des limites en fait à l'adoption, il y a des limites au transfert de personnes en dehors de là où elles appartiennent, enfin de là où elles auraient dû grandir, parce que c'est si on n'a pas la transparence qui va avec, si on essaye de le cacher, et ça je suis désolé de faire le parallèle, mais c'est un peu ça le gauchisme, c'est prendre des gens, essayer de leur expliquer que nos ancêtres les Gaulois, je sais pas quoi. Si on n'a pas cette transparence-là, et ben on crée des frustrations, et ces frustrations peuvent être résolues quand on arrive à comprendre quelles sont nos réelles racines, et ensuite, libre à nous le choix de regarder comment on noue avec, comment on y renonce, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Et c'est ce qui se passe à la toute fin, là je saute. À la toute fin de Hercule, finalement, on lui propose de retourner à l'Olympe, mais il a décidé, sachant ses racines, sachant exactement d'où il vient, qui il est, que sa place n'était pas là, parce qu'il en a fait le choix. Bon, je reprends mon histoire. Parce que là, on arrive à ce qui motive absolument n'importe quel petit garçon, c'est le training montage. C'est le training montage de Hercule. Zeus lui dit, va trouver Philoctète, c'est le mec qui a entraîné tous les héros, tous les champions. Et donc, il va le retrouver, il monte sur Pégase, il retrouve son Pégase et il va le retrouver. Et en fait, il va retrouver un vieux bouc qui n'a aucun rapport. Et là, on nous explique, en fait, le film nous explique que ton entraîneur peut être hors sujet et même inapte lui-même à être un héros. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les connaissances, la pratique, la théorie et tout ce qu'il faut pour toi te transformer en héros. Et d'ailleurs, ça, c'est un premier réellement que je trouve intéressant. Deuxièmement, quand on a cette introduction avec Philoctète, je sais plus comment il s'appelle, on voit un mec blasé. On voit un mec blasé, alors que dans son palmarès, il y a Jason, il y a Achille, il y a Ulysse, enfin, je sais plus, mais il y a tous les héros, en gros, de la mythologie grecque. Il a un palmarès de fou, mais il est grave blasé et déçu, parce que chaque héros a fini par perdre d'une manière tragique, et il a jamais eu, en fait, son Chad ultime, qui était devenu un vrai, pas un demi-dieu, mais un vrai dieu, quoi, un vrai boss, invincible, la création parfaite. Il est à la recherche de cette perfection-là, et le fait de ne jamais la trouver, malgré l'aventure qui lui plaît, en fait. Il oublie que ça lui plaît d'entraîner les mecs. Mais il est tellement, après, déçu parce qu'il y a eu un point faible, et il est tellement perfectionniste que il a préféré arrêter. Et en fait, je pense que le film nous explique que à travers Philoctète, il faut persévérer. Et c'est drôle parce que dans sa méthode d'apprentissage, d'enseignement, il n'arrête pas de dire à Hercule, continue, persévère, alors que lui-même, finalement, a baissé les bras. Mais en fait, en retrouvant Hercule, en retrouvant un jeune, en retrouvant une nouvelle aventure, et enfin de la foi dans quelque chose qui pourrait vraiment fonctionner à fond, il retrouve la passion qu'il avait quittée. Et là, bah oui, il y a Hercule qui va faire son entraînement. Il va d'abord l'aider à tout nettoyer. Donc ça, c'est marrant, ça. Il lui donne pas directement une salle fitness park bien équipée, etc. Il lui dit bon bah tu vas d'abord bosser pour tout nettoyer parce que bon, je me suis un peu laissé vivre, c'est le bordel. Et Hercule accepte. Et Hercule est grave chaud. Il est grave motivé. Il est adolescent et il veut aller à la conquête de sa force qui jusque-là ne lui apportait que des ennuis. Ça lui apportait juste de se faire rejeter par les gens et de tout détruire dès qu'il essayait de faire un truc normal, quoi. Non, là, il va aller à la conquête de ça parce que son père, Zeus, lui a dit qu'il fallait qu'il devienne un vrai héros. Et donc, il va s'entraîner pour devenir un vrai héros. Et là, on a vraiment tout le training montage qui fait vraiment plaisir. On a toutes ces phases de progression et il s'entraîne à sauver une poupée qui est une demoiselle en détresse. D'ailleurs, c'est marrant ça que le héros doive absolument sauver les demoiselles en détresse. Et donc, bon voilà, il finit son entraînement, il y a toute une musique, c'est palpitant. Et ensuite, il lui dit, bon bah c'est parti, on va aller tester ça sur le terrain, let's go. Et ils partent, et là, ils devaient aller à Thèbes, je crois. Mais sur le chemin, ils entendent le cri d'une demoiselle en détresse. Et là, Hercule fonce, et il fait la rencontre de Mégara. Mégara qui est donc la belle meuf, son crush, son big daron, c'est son crush du dessin animé, quoi. Et il oublie tout. Il oublie tout, il perd ses moyens, il n'arrive pas à se défendre correctement, il fait tomber son épée. Et surtout, même une fois qu'il arrive à la sauver, parce qu'il a quand même, il affronte un centaure, mais je veux dire, lui, il est invincible, et il ressent pas la douleur, limite. Il explose le centaure tôt ou tard. Et il oublie son entraîneur et son cheval, alors que ce sont ses amis d'enfance pour son cheval, ce sont ceux qui l'ont soutenu pendant toute son adolescence jusqu'à faire de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Il les zappe complètement d'un coup parce que il ne connaissait pas, en fait, tous les hommes, même Hercule, ont des faiblesses, et c'est la première fois en fait qu'il découvre les femmes. Et donc tout passe au second plan. Et là, on a les prémices de ce qu'il attend, le petit Hercule. Parce que malheureusement, la faiblesse de cet homme qui est un surhomme, qui est surpuissant, qui est tellement fort, c'est que, malgré tout, il queque un petit peu. Il va simper un petit peu, parce qu'il connaît pas les femmes, il ne connaît pas sa propre valeur, et il ne sait pas exactement quel est leur degré de vice et de manipulation. Et donc, ça, c'est les prémices, et ensuite, il finit par repartir, voilà, ils repartent. Je crois qu'il repart sans Mégara, je sais plus. Et ils vont à Thèbes, bon. Ils arrivent à Thèbes, et ça, je vous en ai déjà parlé. Il y a tout le monde qui se plaint. Oh, c'était mieux avant, je sais pas quoi. Ce qu'il nous faudrait, c'est un héros. Et là, il fait, je suis un héros. Ils disent, ah bon, c'est quoi ton CV? T'as fait quoi? Intéressant. Mais t'es une fraude, voilà. Alors, pourquoi pas? Sauf qu'il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une alerte, il y a des enfants, Mégara, je crois que c'est Mégara qui donne l'alerte, parce qu'elle est complice, il y a des enfants qui en fait se révèlent être peine et panique un peu plus tard, qui sont coincés sous un caillou, un énorme rocher. Et là, c'est ce que je vous avais dit, c'est qu'ils se rendent sur les lieux, et tout le monde arrive à voir Hercule, et ils sont là, ils s'assoient. Ils n'essayent pas de soulever le caillou, ils restent assis, et ils regardent la scène. Ils font, bon, bah toi, là, le héros, bah vas-y, montre-nous. Et donc Hercule y arrive, il soulève à grande difficulté le caillou, et là, c'est ça qui me fume de rire, c'est les enfants qui partent, merci monsieur, je sais pas quoi, et là il y a des petits applaudissements un peu timides, en mode, ouais, bof. Et je vous jure que cette scène, elle me fume, parce que les mecs, ils sont d'une ingratitude absolue, ils sont en mode, ouais, bof, pas impressionnant, alors qu'ils sont arrivés, ils se sont branlés, tu sais. Et donc la suite arrive, il y a une hydre qui débarque, il y a un combat où on comprend qu'à chaque fois qu'il coupe une tête, elle repousse x3, donc il finit avec beaucoup trop. C'était l'œuvre d'Hadès, il finit par lui faire renverser tous les cailloux dessus. Et là, ça impressionne tout le monde parce qu'ils sont vraiment chiés dessus avec un tel monstre. Et à partir de ce jour, et là t'as les muses qui reprennent la chanson, de zéro en héros, et ils retracent tout le parcours héroïque d'Hercule. Et en fait, ça devient un énorme Chad, ça devient l'idole de la foule. Et là, c'est intéressant parce que la première et unique quasiment motivation de Hercule, c'est de devenir un vrai héros, et il envisage le fait de devenir un héros dans le regard des autres. C'est ça qui est intéressant. C'est que pour lui, devenir un vrai héros, c'est d'avoir la reconnaissance du monde. Et c'est là où il va faire erreur, parce que c'est insuffisant. Oui, il faut aider les gens, oui, mais en fait, tout ce qu'il fait, c'est pour avoir la reconnaissance, c'est pour le regard des autres, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait. Et donc là, bon, il y a cette fameuse chanson de Zéro un héros qui a inspiré le programme Zéro Two Heroes, et qui me vendait du rêve quand j'étais petit, parce que, bah, en fait, moi aussi, j'étais en recherche de reconnaissance, je me disais, ah d'accord, ça donnait ce dessin animé te donnait, en gros, le mode d'emploi pour... être l'idole des fans, tu vois, être adulé par tout le monde, par la gente féminine, par le monde entier, et il disait, bah en gros, il faut que tu fasses des trucs de fou furieux héroïque, coup sur coup sur coup sur coup, et là, t'auras du merchandising, t'auras des claquettes Hercule, t'auras des petites pailles, des gobelets Hercule, tu vas t'enrichir, parce que c'est ça, c'est... je crois que dans la chanson, c'est... Bon, je sais plus, mais en gros, il s'enrichit, toute la Grèce entend parler de lui. Il y a un truc qui est stylé dans cette chanson-là, c'est que on revoit ses parents adoptifs, et ils ont toujours la même ferme derrière, sauf que elle a été surélevée par des gros piliers en or, donc il a fait croquer les darons, et ça, c'est stylé, tout le monde est fier de lui. Et puis bon, voilà, il a son emploi du temps, il est géré par son entraîneur qui enfin a obtenu son rêve absolu, c'est-à-dire lui aussi la reconnaissance et la fame et la richesse, et... Il vit dans un énorme temple, il fait des photos, toutes les meufs sont derrière lui, et puis un jour il y a Megara qui arrive et qui lui propose une petite escapade alors qu'il y a des rendez-vous pour faire un rendez-vous amoureux. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que Megara, en fait, et c'est là où le film t'explique que les femmes... Attendez, je prends une gorgée de play avant de parler de la suite. Le film te met en parallèle des groupies. Juste avant, t'as des groupies blondes. Parce que oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un... Il y a un parallèle entre les groupies blondes. Il y a souvent ça hein, dans plein de films. Et la vraie femme brune... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, méditerranéenne, je crois que c'est volontaire hein, ces choix de parallèle. Donc il y a ces groupies blondes qu'il aime, qu'il adore, qu'il adule, parce que il est connu, parce que il est riche, parce que c'est le héros, il est trop fort, toute la Grèce admire ses biceps, pas un gramme de graisse quand ses pectoraux se compressent, c'est ce que dit la chanson. Et de l'autre côté, t'as la femme qui a plus de retenue, a plus de classe, d'élégance, et en fait qui va le manipuler parce que elle est tenue par un accord avec Hadès qui la tient depuis, qui détient son âme depuis une ancienne histoire dont on n'a pas trop de détails. Concerné un ancien mec, je sais pas quoi. Et en fait, oui, bah si, en fait, c'est important parce qu'on apprend que Megara est devenue comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une meuf complètement désillusionnée, qui est capable de manipuler qui elle est, enfin, qui il faut pour avoir la paix, parce que elle était victime, elle était éperdument amoureuse de son ancien mec, et que elle a fait un deal avec Hadès pour vendre son âme, pour le sauver, et que lui, ce bâtard, il est parti avec une autre meuf. Donc en gros, on apprend que Megara est une âme tourmentée qui a été trahie. Donc là, on en vient aux expériences qui détruisent les femmes, alors que Hercule, dans ses expériences, ça le construit, et il surmonte ses obstacles pour se hisser comme un héros. Et donc voilà, Megara, on apprend qu'elle a été trahie par un homme, qu'elle se méfie énormément des hommes, qu'elle se méfie même de la nature humaine, et donc que, bah... un homme de plus, qui s'appelle Hercule ou pas, et bah, de toute façon, c'est une merde, il se révélera être une merde tôt ou tard, donc autant le manipuler, parce que je suis en contrat avec le diable. Et donc, elle va faire en sorte qu'ils tombent ensemble amoureux, sauf que elle va tomber réellement amoureuse de lui, en se rendant compte qu'il a en fait beaucoup plus de qualité de cœur que on pouvait prêter à un mec qui a juste une force herculéenne. C'est pas juste un gros bourrin, c'est aussi un mec sensible, qui est intelligent, qui est prêt à l'écouter, etc., etc. Et elle décide après de refuser de continuer à bosser avec Hadès, parce que en fait, c'est la première fois de sa vie où elle se rend compte que elle a peut-être tiré des conclusions hâtives sur la jante masculine en disant men are trash, tu vois. Mais Gara, elle était en mode men are trash et puis elle a rencontré un homme beau, musclé, riche et gentil. Elle a fait mais non, ça ne peut pas exister. Et qu'est-ce qu'elle fait cette pute? Elle le trahit. Non, en fait, après, elle veut plus le trahir, sauf que Hadès va se servir de cette manipulation-là. Le diable se sert de la manipulation féminine pour avoir ce qu'il veut. Et en fait, Hadès, qu'est-ce qu'il va faire? Non, c'est pas ça. C'est que il y a Philoctète qui va être témoin de la scène. Il va voir Mégara discuter avec le dieu des enfers qui ont monté un plan pour baiser Hercule. Et donc Philoctète, qui est l'ami, le meilleur ami en fait de Hercule. Même si, bon, non, le meilleur ami, c'est Pégase, mais vous avez compris, c'est son entraîneur, c'est lui qui l'a fait de A à Z, de zéro en héros, il l'a récupéré, c'était rien, il l'a fait, il a passé du temps, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut toucher un peu les deniers, la récompense de tout ce travail-là, et il était là au plus bas de Hercule, il était là quand Hercule n'était personne. Il lui a tout fait, il l'a veillé sur lui, il l'a fait toujours dans son intérêt, il connaît son intérêt. Et en fait, il arrive, il y a Hercule qui est en train de s'entraîner sur une piste athlétique, et il lui dit, écoute, je suis désolé de ce que je vais te dire, mais en fait, Mégara se sert de toi, elle se fout de ta gueule, elle t'a trahi, et là, en fait, Hercule, vu qu'il est... Il est ébloui, il vient de sortir de son rendez-vous amoureux, et qu'il connaît pas les femmes, et bah, il s'énerve, il dit, arrête de dire ça, la prochaine fois que tu dis ça, je sais pas quoi, il dit, elle t'a trahi, et là, il lui met une tarte. C'est-à-dire qu'il frappe son entraîneur avec la force qu'il a acquis grâce à son entraîneur, il l'utilise contre celui qu'il a fait de toute pièce, quoi. Bon, ça c'est un énorme classique, hein, des trahisons, de l'ingratitude, même si Hercule, c'est juste là pour le coup un coup de nerf. Il a pas contrôlé sa force, il a pas contrôlé sa colère, c'est peut-être quelque chose qu'il avait pas vraiment appris à faire avec Philoctète finalement. Et donc, bon bah ni une ni deux, il se dit bon bah voilà, je savais que j'irais de déception en déception en formant des grands héros, et voilà la prochaine, il va se faire démolir, il va se faire avoir, je ne veux plus faire partie de cette aventure, je ne veux plus subir cette énième désillusion, cette énième déception. Et donc il se barre. Et là, il y a Pégase qui se fait à ce moment-là enchaîné par peine et panique, qui s'était transformé. Comment est-ce qu'ils arrivent à avoir Pégase? Il se transforme en femelle Pégase qui lui fait et après donc il se fait lui aussi manipuler par une femelle. Pour en fait, ce film vous montre que la faiblesse des hommes, ça a toujours, et elles le savent très bien, ce sera toujours les femmes, des hommes mal avisés. Et donc il se transforme en femelle Pégase et il le piège comme ça. Et donc Hercule est privé de sa fidèle monture volante, quand même c'est pas rien, de son entraîneur qui est là pour lui remettre les idées en place quand il commence à partir en tous les sens, il est là pour le cadrer. Donc il est privé de son cadre, il est privé de son de ses compagnons, quoi. Et arrive Hadès qui le menace, qui lui dit bon bah tant pis, si tu veux pas coopérer, Mégara sera ma prisonnière à vie. Et là ils font un deal, ils font un marché. Tu libères Mégara de toutes ces tu lui rends son âme, tu la libères de ton emprise. Et en échange, j'accepte de perdre mes pouvoirs pendant 24 heures. Et en fait, ça correspond exactement à la période où Hadès va déchaîner les titans pour s'emparer de l'Olympe et mettre en prison Zeus et prendre sa revanche. C'est pile poil, les planètes sont alignées à ce moment-là. Et il lui dit une fois, deux fois, parce que l'autre hésite, hop, ils font le marché. Et donc Hercule, et ça c'est aussi un classique, mais il est très bien exécuté, c'est le moment où t'as ce personnage qui est devenu un héros, un champion, mais il partait quand même avec une génétique de bâtard. Il partait quand même avec des petits avantages en nature qui, voilà, on se dit, bon, bah oui, d'accord, Hercule, mais bon, bah moi aussi, si j'avais une force surhumaine, oui, je mettrais des patates à des monstres. Je prends une petite gorgée de play et on poursuit. Et donc, là, on est face à un Hercule qui est redescendu de son piédestal, il a mis son ego de côté pour quelque chose qui le dépasse, qui est plus important, c'est-à-dire perdre ses pouvoirs, oui, pendant 24 heures, alors que c'est ses pouvoirs qui ont fait de lui ce qu'il est devenu, c'est grâce à ça, il a capitalisé comme un gros porc là-dessus, et ben il accepte de les perdre, oui, de manière temporaire, mais de les perdre en échange de la liberté de l'âme de la femme qu'il aime. Donc là, Mégara, elle voit encore plus elle est acquise, quoi. Elle se dit, mais attends, ce mec vient d'acheter mon âme, alors que ça fait des années que je suis une esclave, en échange de ce qu'il a de plus précieux. Et en réalité, on apprend que c'est pas ce qu'il a de plus précieux. Ce qu'il a de plus précieux, c'est sa foi, c'est son cœur. Et en apprenant que les titans, parce qu'ensuite, il y a un quatrième, un cinquième titan qui s'appelle Coucou Bel Oeil, qui est un cyclope, en fait, qui se ramène dans la ville pour la dévaster. Il se ramène à Thèbes, je crois. Tout le monde l'appelle, et en fait, il a perdu le feu, parce que, je crois que Pégase, je sais plus si Pégase, ils l'ont sauvé, pas encore. Voilà, Pégase n'est pas, oui, non, non. Il a perdu Pégase, donc il a perdu son ami d'enfance, il a perdu son cadre, il a perdu celui à qui il doit tout, Philoctète, il l'a déçu, alors qu'il apprend finalement qu'il avait raison, qu'il essayait de le prévenir, que Mégara travaillait avec Hadès. Donc il a perdu la foi, il a plus envie de se battre, il a envie d'abandonner. Il baisse les bras parce que il a plus les gens qu'il aimait, en fait, avec qui travailler. Et donc à quoi bon, en fait? À quoi bon? J'ai perdu mes pouvoirs, j'ai sauvé une femme qui, en fait, a essayé de me manipuler, de se servir de moi, et j'ai frappé et renvoyé l'homme à qui je dois tout et qui a essayé de me prévenir. Donc le mec, et mon meilleur ami est parti avec lui, parce qu'il ne sait pas que Pégase était... Donc il se dit, mais j'ai plus rien, en fait. À quoi bon me battre? J'ai même plus mes pouvoirs. Autant en finir. Il est en dépression absolue. Et donc il se fait massacrer par le cyclope, sous les yeux de Mégara, qui ne sait pas quoi faire, et elle finit par... À trouver, je crois qu'elle trouve Pégase, elle va le libérer, et ils vont retrouver Philoctète avant qu'il ne soit trop tard, qu'il soit parti, et elle lui dit, Hercule a besoin de toi, et lui il dit, mais t'es salope, tout est de ta faute, et il retrouve Hercule, et là, il retrouve toute sa foi, là. Hercule retrouve sa puissance, il a plus ses pouvoirs, mais il retrouve son cœur, et donc, il arrive à combattre le Cyclope, et à l'avoir sans... Et donc il prouve au monde... Qu'il suffisait pas uniquement d'avoir de la force surhumaine, il fallait en fait en avoir la volonté. Et pour en avoir la volonté, il fallait d'abord être quelqu'un de bien, mais être entouré des gens qui nous aiment, qui nous aident et qui sont notre tout. Et qu'en fait, un homme, quand il est accompagné par des gens qu'il a triés au fur et à mesure sur le volet, hein, au fil des aventures de la vie, il devient inarrêtable, quels que soient ses pouvoirs, d'être fort, d'être pas fort, ça ne veut rien dire. Et donc il montre à toute la population que en fait ils auraient pu se défendre en ayant suffisamment foi, voilà. Parce que c'est ça être un vrai héros. Et au dernier moment, il y a une colonne qui lui tombe dessus et Mégara. Le pousse et se prend la colonne dessus et donc meurt à sa place. Elle le sauve. Et ça c'est intéressant pour deux choses. Déjà parce que ça fait évoluer l'histoire, parce que dans le deal, l'accord qu'ils ont fait avec Hadès, il aurait dû ne plus avoir de pouvoir, sauf s'il arrive malheur ou si elle est blessée, Mégara. Donc il a vraiment mis Mégara au centre de la chose. Et donc Mégara est blessé, donc il va reprendre ses pouvoirs. Mais surtout, on a Mégara qui était obsédée, obnubilée par elle-même. Elle était en désillusion complète face à la nature humaine, face à tout. Et elle est capable de mettre sa vie en jeu, ce qu'elle n'a jamais fait, ce qu'elle n'était plus capable de faire en tout cas, parce qu'elle l'a déjà fait. Elle est capable de remettre sa vie en jeu pour sauver l'homme qu'elle aime, quitte à en mourir. Et elle va en mourir. Mais Mégara, elle meurt pas tout de suite, donc Hercule, il a le temps d'aller sauver son père, d'aller enfermer les titans, etc., d'aller encore une fois prouver que c'est un mec qui blague pas, que c'est un vrai héros. Et puis quand il revient, Mégara meurt, et donc il va aller en enfer, et il va aller repêcher son âme et faire marcher avec Hadès. Donc un marché, comme Hadès avait fait un marché avec lui, cette fois c'est lui qui est en position de force, il fait un marché avec Hadès, et lui dit, j'échange mon âme contre la sienne. Et il va la repêcher, et il la repêche, et quand il ressort, en fait, eh bien, on ne peut plus lui prendre son âme. Normalement, le marché aurait dû arriver à son terme, mais on ne peut plus lui prendre son âme. Pourquoi? Parce que il est devenu immortel, il est redevenu un dieu, parce qu'il a prouvé que c'était un vrai héros capable de sacrifier sa vie pour les gens qu'il aime. Jusque-là, en fait, il faisait des trucs héroïques, pas facilement, mais pour prouver. Pour avoir de la reconnaissance, pour montrer à tout le monde que c'est un héros. Et là, il a fait un acte héroïque, pas pour prouver, il a fait ça dans un endroit où personne ne peut regarder, un endroit où personne ne saura jamais, un endroit où ça le regarde que lui et sa conscience, et il a fait le choix d'aller jusqu'au bout de son rôle de protecteur, de défenseur, en sauvant, en échangeant sa vie contre celle de la femme qu'il aime. Et c'est ça qui fait de lui un véritable héros. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il retourne à l'Olympe, et au moment de retourner là où il a toujours eu envie d'aller, là où il a travaillé depuis le départ comme seule et unique motivation, c'était de devenir un vrai héros pour aller rejoindre son père et sa famille et les dieux à l'Olympe, et bah devant les portes, il décide que en fait c'est cool l'Olympe, ça déchire, il y a de la bouffe illimitée, tout est en couleur, parce qu'en fait les dieux dans Hercule ont une aura de couleurs, il fait putain c'est nickel, mais il fait encore un acte héroïque, c'est-à-dire qu'il dit je préfère sacrifier cette vie éternelle dans le confort pour avoir une vie mortelle, mais qui a du sens avec quelqu'un que j'aime et avec mes amis. Et donc là, il devient une étoile, c'est la naissance d'une étoile, une superstar, et c'est la fin de Hercule. Et oui, et moi je trouve que ce dessin animé, il est formidable, il donne vraiment un cap et des idées, des grandes idées de ce qui fait la valeur d'une personne. Il te montre aussi qu'il faut aller la chercher. Hercule, il devient pas comme ça, il fait sa crise d'ado de merde, il devient pas par la suite le boss, en fait. Il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il fasse preuve d'abnégation, il faut qu'il écoute son coach, là, Philoctète, et il n'y arrive pas tout seul. Il n'y arrive pas tout seul. Et les moments où il pense que ça y est, il est tout seul, il se fait rattraper par la vie, et c'est ça que j'aime, qu'on aime dans les Disney, c'est que le héros, normalement, prend une branlée à un moment donné, à cause de ses faiblesses. Il est pas parfait, il a des défauts, et ses défauts vont servir à ses ennemis à capitaliser là-dessus, ou il va lui arriver une saloperie dans la vie, et donc il va en tirer une leçon. Et bref, je trouve qu'il y a tout dans Hercule, il y a le parcours héroïque, il y a les femmes qui, par des illusions, finissent par devenir les alliés des enfers, mais qui sont toujours sous le charme, non pas des petits cucks, ni des petits simps, ni des gens qui sont de peu de foi et qui trahiront, mais justement au contraire, des hommes de valeur qui ont de la loyauté et aussi la capacité de défendre cette loyauté, ça c'est ce qu'ils oublient, hein. Tous les... Papacito avait dit une fois que les pacifistes, il y avait les vétérans et il y avait aussi ceux qui n'ont pas le choix d'exprimer de la violence. Il faut, pour être pacifiste, il faut être capable d'exprimer de la violence. Et donc, Hercule incarne tout ça. Et ouais, il y a absolument tout dans ce film et dans ce dessin animé. Et je voulais absolument un jour, dans ce podcast, revenir dessus pour... en fait... Il ne diabolise pas le fait de devenir de zéro en héros par envie de reconnaissance, par envie de gratitude, par envie d'exploit, mais il nous explique que ce n'est pas suffisant, et que ce n'est pas ça qui fait de nous un vrai héros, etc. Et il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire que ça sert à rien. C'était nécessaire de faire tout ce qu'il a fait, de devenir, de sauver, de taper tous les monstres, etc. Mais c'était pas suffisant. Et les salopes de notre époque nous expliquent que il y a pas besoin de ça, en fait, il suffit juste d'avoir un bon cœur. Non, tu as un bon cœur parce que tu suces, en fait. T'as un bon cœur parce que tu es soumis et que tu n'as pas le choix. Tu as un bon cœur, tu prétends avoir des valeurs, etc. Mais la réalité, c'est que dans ton humanité, tu as oublié les tiens. Tu as oublié de les défendre et de les protéger parce que tu n'en as plus la capacité. Donc tu as décidé d'ouvrir ton cul à tout le monde, en fait. Voilà ton bon cœur, c'est de pas savoir dire non. Et donc Hercule nous apprend que il faut faire un training montage, donc développer des compétences, être capable de les exercer et aller en quête de reconnaissance de notre... supériorité, quoi, de nos actions remarquables, et que à la fin il faut rester, faut aller à la conquête de notre humanité, de nos valeurs, de nos de notre cœur, en étant prêt à laisser tout ce qu'on a construit jusque là. Voilà, c'est pour ça que je kiffe de ouf Hercule, et puis l'esthétique me plaît évidemment, dans la Grèce antique c'est stylé, l'humour me plaît. Une petite goutte, quand peine et panique, voilà, les exemples de déloyauté sont tellement peu fidèles à leur bourreau Hadès, dieu des enfers, que la première occasion qu'ils ont eue, ils se réalisent même pas, en fait. Ils vont acheter des sandales Hercule, ils vont acheter des gobelets de la boisson Hercule, sans se rendre compte que ça se fait pas, en fait. c'est le pire ennemi de votre boss, donc tu as un peu de respect. Bref. Donc ça parle aussi de l'entourage, voilà, l'entourage des méchants, l'entourage des gentils, hein, grossièrement, et je trouve qu'il y a absolument tout. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Je vais prendre quelques questions, hein, on va faire la transition, je prends une gorgée de play, on va répondre à quelques questions que vous m'avez posées cette semaine, et ce sera tout pour cet épisode où j'ai parlé du Roi Lion et de Hercule, qui sont deux Disney, évidemment. Et Hercule est sous-coté. Hein. Hercule, il mérite vraiment d'avoir une place centrale, selon moi, dans tout ce qu'a fait Disney. Ok. Je prends mes questions. Une petite seconde. Et voilà. CLS Kev, salut Raptor, as-tu déjà lu Démocratie, le dieu qui a échoué de Hans Hermann Hoppe? Je le recommande vivement à la communauté pour mieux comprendre les rouages de cette société en pleine décadence. Non, je ne l'ai pas lu, c'est le livre qu'a tchadamment conseillé Moïcano après sa victoire à l'UFC Paris, et non, je ne l'ai pas lu. Oui, j'ai pas besoin d'être convaincu sur le fait que la démocratie, mais t'as raison en fait, ça peut être très intéressant, ça peut donner encore plus d'arguments pour vaincre la démocratie. Raph Adiekli, bonjour Monsieur Semani, quel a été le complément ou le produit le plus difficile à concevoir et à sortir depuis le début de Raptor Nutrition? Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, vous êtes le boss, ne lâchez rien. Je dirais, alors les bars c'est toujours un casse-tête. Parce que il y a un côté texture, il y a un côté goût, il y a un côté macro, il faut jongler entre plusieurs choses, donc les barres c'est toujours compliqué. Bah, c'est pour ça qu'en fait les barres du marché elles sont dégueulasses, hein, et qu'on a tout niqué. Le café en capsule, en moulu c'était beaucoup plus simple, en capsule ça a été un défi d'avoir des capsules, parce qu'on a des capsules qui sont végétales en blé, on dirait que c'est du plastique hein, la coque, mais non, c'est du blé et du maïs, sans OGM. Donc ça a été difficile de sourcer, elles sont fabriquées en France, l'opercule aussi, fallait que l'opercule aussi soit avec le logo Raptor qui est en encre, comment ça s'appelle, en encre, pas comestible, enfin c'est pas, le terme n'est pas comestible, mais en gros c'est en encre alimentaire, voilà. Ça a été assez compliqué à trouver, et sinon, le prochain produit de la gamme Athletics, Faut que vous sachiez un truc, c'est que les compléments alimentaires sont limités dans leur dosage de certains ingrédients par portion. Et en fait, quand elles sont dépassées, ils sont requalifiés parfois par la DGCCRF. Ils sont requalifiés en médicaments. Donc, impossible à être mis en vente ou quoi. Ce n'est plus un complément alimentaire. Et là, pour le prochain produit de la gamme Athletics, on a bourriné sur tout et on a été requalifié sur 3 ingrédients. Il y en a 8. Sur 3 ingrédients, on s'est fait requalifier en médicaments, il a fallu baisser les portions, ce qui est assez chiant. Sachant que la formule a été très longue, parce qu'on a rajouté des choses. À un moment, il y avait, je peux pas vous dire, mais il y a quelque chose qui était très difficile à rendre en toute petite bicapsule pour que ça se mêle à de la poudre. J'en parlerai quand ça sera sorti, mais on a dû l'enlever, parce qu'il y a eu un changement dans la légalisation européenne, de dernière minute. Pour rien, comme d'habitude, etc., etc. Donc je dirais que lui, il a été vraiment, vraiment casse-tête. Il y en a qui sortiront jamais parce qu'ils sont tellement chiants que bah du coup, on ne pourra pas. Et ça demande trop de dépenses, en fait. À la fin, tu sors avec un produit qui coûte trop, trop cher, donc ça sert à rien, c'est pas possible. Mais ouais, les bars, c'est toujours très difficile. Là, on a une idée, parce qu'en fait, je vous le dis en avance, ce qui va se passer, c'est que on va faire un truc à la McDo, c'est-à-dire qu'on va garder les deux titulaires qui sont trop moelleux chocolat et très crusty chocolat noisette, qui sont les deux titulaires qui sont là depuis le début. Et en fait, le troisième, Luron, il va changer. De temps en temps, il y aura le retour du Big Tasty. Hop, cette fois-ci, c'est le 280. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura des exclusivités qui dureront pas longtemps et qui seront là. Et donc, la méga crispy, elle en fait partie. Donc là, si vous voulez, vous pouvez les prendre là avant qu'elles disparaissent. Et elles reviendront dans longtemps. Et là, on travaille sur une prochaine recette qui remplacera. Il y aura un petit moment de vide, mais ensuite, il y aura celle-ci. Et ouais, j'ai des idées, mais c'est compliqué à mettre en œuvre dans ce que je veux. C'est toujours compliqué, les bars. Voilà, c'est toujours compliqué, les bars. Ninland, bonjour Raptor, avec Papacito, vous avez humilié Règle Gorilla et maintenant c'est Astérion qui l'a achevé. J'ai vu ça, je crois, à propos de quoi de Assassin's Creed Shadow, non? Là où je veux en venir, c'est que, comme Exquisie, votre démarche était d'essayer de lui faire ouvrir les yeux, ne serait-ce qu'un peu néanmoins, pourquoi vous cherchez-vous à sauver ceux qui brûlent dans l'enfer qu'ils ont eux-mêmes créé? Pourquoi ne pas les laisser entre eux et au contraire se concentrer sur notre propre développement pour creuser l'écart? À mon sens, leur manque d'intelligence et de clarté d'esprit en fait une cause perdue. Bah parce que il faut qu'un jour ils aient cette proposition et ce rappel et pour prouver une fois pour toutes que c'est de leur choix, que leur destin est de leur choix, qu'ils n'ont pas été influencés, je sais pas quoi, qu'ils ont bel et bien choisi de continuer et de persévérer dans le mensonge, dans le déni de réalité, et ça permet ensuite de. Je pense que c'est important, c'est intéressant. Et puis même, il y a un moment où il va falloir compter sur un peu les influenceurs pour arrêter de coquer. Il faut absolument qu'ils arrêtent de se chier dessus. Et pour leur propre vie, c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant dans la capacité d'influence qu'ils ont. Même si avec le Gorilla, honnêtement, c'est personne. Et les stats qu'il fait, c'est pour les gens qui viennent parce qu'ils sont choqués de ce qu'il dit. Singe Arctique, salut Smail, souhaites-tu revenir brièvement sur la sortie de la première vidéo de Candace Owens à propos de Brigitte Macron? Merci pour ton contenu. Je l'ai regardé brièvement, j'ai un peu loupé le début. Oui, ça va être intéressant. Bon, je pense qu'elle c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle dit. C'est ouais, on verra, hein, on verra. Moi, en fait, la seule chose intéressante, c'est la capacité de pression politique sur quelqu'un qui cache des lourds secrets. Maintenant. C'est comme ça que fonctionne la politique en fait. C'est le concept aussi de l'état profond, c'est que y a des gens qui sont placés là, aidés financièrement, etc., parce qu'ils sont tenus par des secrets inavouables. Certains concernent des voyages sur le Lolita Express avec Jeffrey Epstein, par exemple. Mais on verra, et c'est passionnant. Nekfra25, salut Smail, pratiquant de CrossFit depuis 4 ans, je me suis mis au trio Workplay Chill pour tester. J'ai d'ordinaire beaucoup de mal à rester hydraté correctement pendant mes séances et le duo Workplay marche à merveille pour ça. Le gain en concentration et la réserve d'énergie qu'ils apportent sont aussi géniaux. Quand je vois certaines boissons type CrossFit labellisées comme Récup ou Boost, il y a même du thé sportif qui coûte un bras et n'apporte rien pour l'entraînement à part le côté plaisir, c'est vraiment réjouissant d'avoir un produit comme ça. Je ne suis même pas au courant que ça existe. Okay. Le tout associé à des barres de qualité et délicieuses, je dois te dire merci. Pour chill, quel est le meilleur moment pour le consommer? Après l'entraînement ou uniquement le soir? Il m'arrive de m'entraîner aussi bien le matin, le midi que le soir selon les jours. Au plaisir de lire ta réponse et continue de nous régaler. Chill, le meilleur moment de le consommer, ça va être dans le repas copieux après entraînement. Voilà. Parce que c'est selon ta sensibilité, tu peux avoir un petit effet hypoglycémiant de la créatine. Donc et ça fera du bien si c'est pris avec un gros repas, ça diminuera en plus un peu le pic glycémique, et ça te permettra de récupérer après ton entraînement aussi. Grâce à la rhodiole. Rémi Laplume, bonjour Ismaïl, dans la saison 1 de 10 000 pas, tu as parlé des trois piliers qui selon toi permettent d'être invincible au quotidien, la patience, le travail et la foi. J'ai trouvé cette leçon de vie très instructive, et si creuser l'écart est définitivement la devise de ta maison gravée sur ton épée, je vois bien ces trois piliers orner ton bouclier. Bref, pourrais-tu faire un update de cette leçon de vie et peut-être la développer, notamment pour les nouveaux auditeurs qui seraient peut-être passés à côté? Je te souhaite le meilleur et toute la réussite pour ton empire. Bah, ça n'a pas bougé, hein. Travail, patience, travail et foi. Oui, parce que en fait, le travail, c'est bien, mais si tu manques de patience, vu que les résultats mettent du temps à arriver. Bah, tu vas arrêter de travailler. Donc, le travail et la patience vont de pair. D'autant plus que la patience et la foi vont de pair. Parce que pour attendre, vaut mieux avoir un cap. Et pour avoir un cap, il vaut mieux avoir la foi. Il vaut mieux avoir de l'espoir. Il vaut mieux se dire que les choses vont retourner dans l'ordre. Donc, c'est vraiment un trio qui s'enchaîne. Et à la fin de la journée, en ayant patience et foi, bon, bah, le travail va t'amener déjà beaucoup de choses. Donc, moi je suis en faveur de renforcer les pensées, les idées qui nous rendent plus forts. C'est pour ça que je ne comprendrai jamais les gauchistes et les mecs notamment en dépression qui défendent bec et ongles leurs idées qui provoquent la dépression. Tu devrais plutôt te concentrer et avoir un autre credo et un autre état d'esprit qui t'amène de la puissance, qui t'amène du contrôle sur ta vie. C'est-à-dire que même si je me trompais, bah je me trompe pas, parce que vu les résultats que ce trio donne, bah c'est qu'il est vrai. Félix Fixit 05. Salut Raptor, 6 semaines de bodyweight, pack testo, 4 œufs après jour, 4 œufs par jour, 10 000 pas. Je voulais essayer ce que tu proposes. Résultat, 10 kilos de perdu. Je vais recommencer le programme en passant au niveau supérieur. Merci beaucoup pour ton travail et tes conseils. Merci pour ton retour sur X, gloire à l'empereur. Et j'ai une question. Que peux-tu nous dire sur l'horloge de l'apocalypse qui a encore reculé et qui bat tous les records? Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour tout. Bon, très bien pour bodyweight, les cut-off. Vous voyez qu'avec les conseils de base, bon, bodyweight, c'est un programme qui est extrêmement performant. Il y aura un épisode 2 tôt ou tard. Peut-être je sais pas, dans un an. Histoire de changer. Donc, je suis très content pour tes résultats. Et donc, imagine si tu passes sur des programmes encore plus complets. Et pour l'horloge de l'apocalypse, franchement, hein, je m'en bats les couilles. Je m'en bats la race. Tu peux me dire que l'apocalypse, c'est après-demain, j'ai du taf. peu importe, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je parte en courant? c'est une météorite. Bon, je vois le délire, mais je pense que c'est un. C'est un truc qu'on se raconte pour faire peur, on s'en bat les couilles, en fait. Ça ne m'intéresse pas du tout. Gaël, FTS et Raptor, quels seraient les compléments les plus adaptés pour quelqu'un qui recherche à être hybride? Sport de combat, plus muscu, plus course à pied, natation. Celui qui fait du crossfit, qui en a parlé juste avant, a parlé de workplay chill. Ça, c'est pour performer. Dans tous les cas, mais ça, c'est un peu toujours la même question, c'est que dans tous les cas, va falloir prendre le pack équilibre. Parce que c'est la base de la base de la base. Ensuite, si tu me dis que tu veux être hybride, ça veut dire qu'il va y avoir une très grande fréquence d'entraînement. Donc, vaut mieux avoir du collagène. Donc là, on se dirige vers le pack optimal. Ensuite, tout est bien en fait, tout est bien. Mais là, si je te donnais la base, pour moi, il faut que t'aies pack équilibre et du collagène. Et si tu veux performer ensuite, ça c'est une autre affaire. Augmenter, améliorer ses performances, c'est une autre affaire que avoir la santé pour soutenir tout ce qu'on va encaisser. Bah, ce sera le pack performance. Et encore, si tu veux gagner en endurance, qui pour moi c'est beaucoup ton cas. Bah, ça va être endurance. Si tu dois faire des choix, c'est sûr que c'est compliqué. Je miserai sur chill en priorité dans le pack performance et sur endurance, voilà. Et play ensuite et work en dernière option si vraiment tu peux te faire plaisir. On fait que des produits utiles et intéressants. Donc c'est vrai qu'après pour te sortir les classiques des classiques, c'est toujours ça dépend de tes priorités. Mathis DMGLH, bonjour Empereur Raptor, je compte acheter le pack équilibre, est-ce ok de partager avec ma femme afin de voir si ça lui convient également ou devrais-je simplement acheter le pack Women Edition en supplément? Merci pour tout ton travail, bon courage dans la gestion de l'Empire de France, hâte de voir les portes de Paris redécorées. Non, bah tu peux partager le pack équilibre, ça sera très bien aussi pour elle. Bon, ça va finir 2 fois plus vite, hein. Mais oui, non, le pack Women Edition c'est différent, c'est pas le pack équilibre version Women. Pack Women Edition, c'est pas un objectif précis, c'est-à-dire la beauté, l'humeur et l'anti-vieillissement, si tu veux, ce qui est très important pour les femmes. C'est complémentaire et ça va ensemble. Mais c'est un autre objectif. Si l'objectif c'est la santé, c'est pack équilibre. Enfin, oui, ok, ça complète. C'est comme la gamme équilibre plus. Voilà, le pack Women Edition, c'est comme la gamme équilibre plus, ça vient en plus. Hugo O, salut Raptor, peux-tu nous en dire plus sur les sous-titres de tes vidéos sur Raptor Empereur STP, bon dimanche. J'ai cru comprendre que ça posait des problèmes à certains. Alors, tout simplement, à la fin de. J'enregistre les vidéos en fait sur TikTok. TikTok donne un outil avec un fond vert où on peut switcher et mettre ce qu'on veut, une vidéo, une photo, donc c'est pratique. Et après, il y a un outil de sous-titres automatiques. Peut-être que je vais changer d'outil, parce que j'en ai un autre maintenant que j'y pense. Vas-y, je vais essayer de changer d'outil pour proposer quelque chose de plus fiable parce que celui de TikTok est vraiment dégueulasse, je le conçois. Par contre, faut se détendre, hein. J'ai vraiment pas que ça à foutre d'aller corriger 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes de sous-titres, mot par mot. J'ai vu des remarques, mais mais faut arrêter en fait, faut arrêter d'abuser. Les sous-titres, c'est très 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 utile parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent sans le son, en public ou quoi, ou qui n'ont pas forcément accès au son. Donc c'est obligatoire, c'est très intéressant de les avoir. Par contre, c'est vrai que la qualité laisse à désirer, mais ne croyez pas que je vais faire une vidéo par jour, plusieurs tweets, des programmes qui déchirent, des compléments, ma vie d'entrepreneur, ma vie de famille, je sais pas quoi, l'expérience sociale, et passer 30 minutes à corriger des sous-titres. Faut se calmer. Jules Dépinois, bonjour, que penses-tu de mettre des deadlines à ces objectifs? Est-ce qu'un objectif daté a de meilleures probabilités d'être atteint qu'un objectif simple? Exemple, dans 3 mois, je dois avoir fait ça, ou dans ma vie, je vais avoir fait. Les deadlines seront mieux que de dire des trucs un peu flous, genre j'aimerais bien faire. Maintenant, c'est marrant que t'en parles parce que on est passé là dans la phase 2 aujourd'hui de l'expérience sociale et c'est le sujet, il me semble, des vidéos de la semaine 5 de cette semaine-là. Donc, si t'y es, tu auras toutes les réponses à tes questions. Duca, Lenny, bonjour Raptor, quelle est la peine associée au métier de RH dans ton empire? Bah écoute, les meufs aux ressources humaines, parce que c'est des meufs, ce qui va se passer, c'est que déjà, avec un fort retour à la natalité et donc à la maison, il y aura moins de métiers bullshit qui consistent à parler mal aux gens qui veulent trouver un emploi. Donc ouais, les RH, je pense qu'elles vont... Le métier va bientôt disparaître et ça va vraiment faire des économies aux boîtes. Lord Ibrahim, bonjour Raptor, je remarque que de plus en plus de pré-workouts contiennent de la bêta-alanine, notamment une marque commençant par... ok, alors que je n'en avais jamais vu dedans avant, coïncidence. Je crois pas, j'ai toujours vu des pré-workouts avec de la bêta-alanine, parce que ça n'a jamais été utile, tout simplement. Donc peut-être qu'il y a une mode parce que l'ingrédient commence à être plus mis en avant en ce moment, mais il n'y en a jamais eu. En fait, il n'y a pas d'intérêt de mettre de la bêta-alanine dans un pré-workout. La bêta-alanine n'est pas un complément timing dépendant. Il n'est pas dépendant du moment de l'ingestion. Et pire encore, c'est comme la créatine. Pareil, s'il y a de la créatine dans un pré-workout, hors sujet. Et c'est encore pire parce que la créatine, je vous le dis, peut avoir des effets hypoglycémiants. Donc si vous arrivez à aller à l'entraînement en hypoglycémie, c'est pas la folie, hein. Donc créatine, ça doit pas être dans un pré-workout. Bêta-alanine, je vous l'ai dit, moi par exemple j'ai mis 1 gramme parce que il y a un effet de picotement qui est recherché par plein d'athlètes qui ont le sort de signal de ça y est, ça marche, vas-y, faut se bouger maintenant. Donc ça c'est agréable, mais c'est stratégique, moi c'est mis stratégique. La bêta-alanine, c'est un ingrédient qu'on prend tous les jours. Donc à moins de s'entraîner 7 jours sur 7, en prenant 7 jours sur 7 son pré-workout, ça va pas avoir d'intérêt d'avoir 3,5 grammes par exemple de bêta-alanine dedans. Par contre, si c'est pour une prise quotidienne, pour augmenter sur le long terme son endurance, bah là c'est intéressant. C'est pour ça que dans la boisson Endurance Infinie, qui se prend tous les jours, indépendamment de l'entraînement, s'il y a un entraînement, on peut aussi la prendre juste avant, parce qu'il y a d'autres ingrédients. C'est l'intérêt d'une formule, hein. Notamment Vinitrox, Guarana, Cordyceps, et là, il y a un intérêt. Mais j'ai déjà vu de la bêta-alanine dans les pré-workouts, et me suis toujours demandé ce que ça foutait là. Et c'est juste pour, en fait, vous faire des picotements de bâtards horribles, et faire genre que c'est intéressant, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Surtout que la plupart des mecs qui en prennent, c'est des muscus, et les go muscus, l'endurance, ils vont pas aller chercher des séries de 25, 30, 50 ans. C'est tout. C'était la dernière question. Voilà. Écoutez, petite semaine détente. On a fait plein de podcasts très sérieux, très virulents. Celui de la semaine dernière vous a beaucoup plu. Donc là, on a fait un podcast détente où je vous parlais de dessins animés, de ce que je pouvais en tirer. J'espère ne pas avoir été trop lourd parce que j'en ai parlé vraiment à la mémoire. Comme d'habitude, hein, y a rien qui est préparé. Des fois, j'ai des notes. Là, j'en avais même pas. Donc voilà, j'ai retracé l'histoire et comment moi je l'interprète et les messages que j'en tire et pourquoi certains je les trouve drôles, certains je les trouve pertinents, certains je les trouve vraiment nécessaires dans la construction d'une personnalité masculine. Désolé mesdames qui m'écoutez, mais là je parle juste pour moi et ce à quoi je me rattache, c'est-à-dire la jante masculine. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Continuez à faire de X notre territoire. C'était le Raptor. À la semaine prochaine. Bonne chandeleur, bonne crêpe, bonne pâte du maître. Et dépêchez-vous de prendre des crispies avant que ce soit la fin de l'édition limitée finalement. Merci à tous. À la semaine prochaine. Ciao.